me retira pas de la tête que le boulot, c'est l'habitude.
Tu sais combien de PME ont déposé l'ambiance là?
Les métiers de demain, les parcours et donc les chômeurs. Donc on a un problème terrible, c'est qu'aujourd'hui...
Monsieur le Président, je vous gratte le cul très fort avec une fourchette.
Ce sont des cotisations des salariés, c'est notre argent, c'est notre fric.
The bigger the lie, the more they believe.
Je suis content de m'être réveillé à l'heure et je trouverai une autre solution.
Pas les employés, hein, mais les dirigeants, ils sont vraiment forts. Hein. Non, moi, j'aurais eu du mal au ventre de travailler dans un service comme ça. Franchement, les dirigeants, c'est des cons. Hein. Parce que c'est des cons, il n'y a pas d'autre mot. Hein.
On n'a plus qu'un règlement.
Ah oui, mais c'est eux qui le fabriquent.
Salut, c'est Radio Radier, hashtag 2, février 2018. Bienvenue aux démissionnaires, aux absentéistes, aux licenciés, aux pas embauchés. Aujourd'hui, on va parler de contrôle et d'Allemagne. Et de chômage, toujours, avec Rémi.
Salut.
Mathilde.
Salut.
Roméo.
Salut.
Denise.
Salut.
La malice. Michel à la technique. Et Lulu.
Alors au sommaire, aujourd'hui, on va commencer par une revue de presse. Ensuite, on fera une petite newsletter Pôle emploi. Puis on prendra un peu de temps pour parler du contrôle en fait en France, du contrôle des chômeurs, du contrôle des précaires, du contrôle des racistes, avec un petit détour par l'Allemagne, notre guide politique de politique économique. Ensuite, il y aura une petite chronique placement en bourse. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'intéressés dans notre auditoire. Le contrôle ou le non-contrôle des entreprises. Et enfin, on finira avec les prochains rendez-vous, les luttes à venir et les lendemains qui chantent.
This is a story about control. My control. Control of what I say and control of what I do. And this time, I'm gonna do it my way. I hope you enjoy this as much as I do. Are we ready? I am. 'Cause it's all about control. And I've got lots of it.
Ok, donc pour commencer cette revue de presse, du coup avec le canard enchaîné qui nous apprend que le World Factbook de la CIA, du coup, son annuaire géopolitique qui dresse l'état du monde pays par pays, a été mis à jour. Et la nouvelle, c'est qu'il y a une révision du jugement de l'agence américaine sur la France depuis l'élection de Macron. Alors que sous Hollande, la CIA fustigeait en France les attaques terroristes, les grèves ouvrières et le mauvais temps, désormais elle se réjouit que, en plus des réformes sur le travail, le budget proposé par le président pour 2018 réduit les dépenses publiques, les impôts et les cotisations de sécurité sociale pour stimuler l'investissement privé et augmenter le pouvoir d'achat. On se sent tellement plus en sécurité quand c'est validé par la CIA.
Et pour continuer, ouais, donc on a lu dans le Canard que Patrick Artus, qui est responsable des études économiques à la banque Natixis et qui est donc un membre aussi du conseil d'administration de Total, a déclaré dans une note publiée par Le Monde, je cite, « La dynamique du capitalisme est aujourd'hui bien celle qu'avait prévu Karl Marx. En résumé, pour éviter un recul de leurs profits, les entreprises captent toujours plus de valeur ajoutée au détriment des salariés. » Artus rajoute, « Cette dynamique aboutit nécessairement d'une part à la hausse des inégalités, des revenus et d'autre part à des crises financières sans deck.
Pop. Et en Allemagne, donc, quand même une nouvelle assez marrante. Les 4 millions de métallos qui bossent chez Porsche ou chez Siemens, par exemple, affiliés au syndicat IG Metall, ont fait 3 jours de grève début février et ont obtenu la semaine de 28 heures et une augmentation de salaire de 4,3%. Bon, ok, en étant payé 28 heures et seulement sur une période maximale de 2 ans, et à la base, il réclamait une hausse de 6%, mais bon, quand même une réduction à 28 heures.
Autre actu, le groupe parlementaire de la France Insoumise a soumis à l'Assemblée nationale le 1er février une proposition de loi sur le burn-out visant à faire reconnaître comme maladie professionnelle les pathologies psychiques résultant de l'épuisement professionnel. Donc ce projet n'a bien évidemment pas été adopté par l'Assemblée, constitué principalement de marcheurs bien dans leur basket, de cadres sup à gros salaires. Pour l'info, actuellement, si un médecin généraliste constate que les problèmes de santé d'un patient sont liés à son travail, il risque une sanction de l'ordre des médecins pour avoir outrepassé ses compétences.
On a également lu La Dépêche, quand même, notre journal local, hein, faut pas l'oublier. Le 5 février, ils nous ont trouvé une solution face au chômage. Alors, c'est laquelle ? C'est une initiative d'une association Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Son projet, donner de l'argent public à un entrepreneur qui embaucherait en contrepartie un chômeur. Donc l'État, il va filer 17 000 euros à un entrepreneur pour qu'il embauche une personne qu'il payera 20 000 euros. Donc ça va lui coûter presque rien. Et en contrepartie, eh ben, il va faire pas mal de bénéfices avec cet emploi. Et on apprend que cette initiative n'est pas du tout soutenue et que ça ne va pas du tout être mis en place. Donc voilà la solution de La Dépêche, il n'y en a pas. Merci beaucoup pour cette info.
Voilà, sinon dans CQFD, du coup, au Royaume-Uni, il y a une étude qui a été menée par 3 universités. Et donc on apprend que les coupes budgétaires dans la santé et le social auraient causé quelques 120 000 morts de 2010 à 2017. Lawrence King, professeur à Cambridge, parle de crime économique. Ouais, je vous remercie pour les mots anglais, c'est cool. Est-ce opposé de rapprocher ce chiffre effarant du chiffre non moins effarant décidé par le gouvernement Macron de 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires en France ? On salue les personnels des EHPAD en grève et en France qui réclament à juste titre plus de moyens pour éviter qu'on se retrouve avec autant de morts sur les bras.
Pôle emploi, la réalité virtuelle pour un emploi réel.
L'agence Pôle emploi de Lille proposait récemment un poste, un CDD de 2 mois, de chargé de la mise en œuvre de l'éloignement des étrangers incarcérés en situation irrégulière. Donc évidemment, l'annonce a été signalée et supprimée le 18 février, mais l'agence Pôle emploi signale qu'elle sera republiée en des termes plus compréhensibles, c'est toujours une question de pédagogie évidemment, car il ne revient pas à Pôle emploi d'évaluer une offre du point de vue de la morale ou au regard de l'actualité politique.
Arrêtez, arrêtez par pitié. Chômeur, branleur, tu n'es jamais à l'heure. Chômeur, branleur, regarde ta mère aux pleurs. Chômeur, branleur, tu n'es jamais. Management très trop planning, harcèlement et brainstorming, licenciement, plan social, travail dominical, suicide salarial, précarité, pause café, j'aime ma boîte, j'aime les stats, vive les cadences infernales. Management très trop planning, harcèlement et brainstorming, licenciement, plan social, travail dominical, suicide salarial, précarité, pause café, j'aime ma boîte, j'aime les stats, vive les cadences infernales.
Donc cette loi sur le contrôle passera probablement à l'été 2018. Et donc en plus d'avoir moins de droits de chômage, on sera encore plus fliqués. Donc on peut parler peut-être des contrôles de la CAF et du Pôle emploi, qu'est-ce qui est en place et qu'est-ce qui va se passer.
Oui, donc pour la CAF, en 2016, les 35,5 millions de contrôles ont permis de détecter 42 959 fraudes pour un montant total de 275,4 millions d'euros. Donc en comparaison des 70 milliards d'euros de prestations servies.
Et contrairement à une idée reçue, les CAF ne font pas vraiment preuve de laxisme. 65% des fraudes détectées ont été sanctionnées par des pénalités financières. 30% ont fait l'objet d'avertissements et 5% ont donné lieu à des poursuites pénales. Sur les 35,5 millions de contrôles réalisés en 2016, 32 millions sont automatisés. Échange de données avec Pôle emploi, les finances publiques, etc. Petit conseil au passage, les allocataires le plus souvent contrôlés sont ceux qui connaissent le plus de changements de situation.
Autre enseignement, les chômeurs et assimilés et les personnes en inactivité, hors retraités, qui peuvent a priori prétendre à des minima sociaux, sont davantage contrôlés que les autres. La fraude au RSA existe, mais en contrepartie, le non-recours au RSA représente un gain pour l'État de 5,2 milliards d'euros pour l'année 2010.
Donc en fait, les contrôles existent déjà. Il y a déjà eu des durcissements des contrôles, en 2015 notamment. Il y a 12 500 contrôles par mois, 215 agents, et des sanctions effectives. Donc en fait, le bilan de Pôle emploi en novembre 2017, pour revenir à des chiffres précis, sur 269 000 chômeurs contrôlés, il n'y avait aucune irrégularité pour 86% d'entre eux, et il y a eu 14% de radiés. Sur les 14% de radiés, il y en a quand même 60% qui n'étaient pas indemnisés. Donc il reste que 5,5%, donc 15 000 inscrits, qui ne cherchent délibérément pas de travail et veulent quand même toucher leurs allocs. C'est vraiment des ouf. La politique du Pôle emploi, en fait, c'est de se calquer sur les modèles hyper coercitifs allemands, anglais, les Pays-Bas aussi, et de faire muter le comportement des chômeurs pour qu'ils se démènent pour trouver du travail et au final faire beaucoup de démarches pour suivre, pour répondre aux demandes du contrôle plutôt que pour vraiment trouver un travail en fait. Donc le résultat, c'est que les chômeurs retrouvent du travail effectivement, mais moins bien qualifiés, moins bien payés, et donc potentiellement prennent les emplois de gens qui sont moins qualifiés qu'eux. Ça pénalise ceux qui sont les plus en difficulté. C'est un effet pervers, en fait, les sanctions. Donc, moins de thunes, forcément, t'as plus de chances de finir à la banque alimentaire ou de perdre ton logement, voilà.
Ce qu'on s'était dit, c'est aussi... en fait, on imaginait, en préparant la réunion, qu'il y avait des contrôleurs qui allaient contrôler si tout le monde touchait bien ses aides sociales. Genre qu'on allait se faire courser jusqu'à chez nous pour vérifier si on a bien reçu notre petit RSA, notre petite prime d'activité. Vous en pensez quoi? On pourrait... Je sais pas, c'est une proposition, quoi.
Bah, ça devrait être leur boulot, ouais.
Ça créerait l'emploi.
Il est interdit de salarier un homme. Démission à la moustache du capitaine. Votre salaire de pièce jaune, votre putain d'abonnement. papier, tu te l'emballes, tu te le roules en cône, tu te le fumes avec ton comptable et tout le conseil de masturbation.
Il est bien ce son.
Pas comme ça demain, on fait le mur, on détale tous, on déclare le rêve général. Nous avons le devoir de désobéir à tous ces marchands de bétail, à tous ces DRH et autres grands prêtres en management. Le devoir d'en finir. Vous m'entendez les galériens, on prend sa main droite, on prend une feuille, un stylo, on écrit. Madame, monsieur, j'ai l'honneur et le plaisir de vous caler ma démission entre les deux parties charnues et avec mon meilleur souvenir. Démission, vous êtes pas encore parti. L'économie, c'est un truc qui s'enlaille, un truc qui nous rabaisse, un truc qui nous salit. Mais on est plus grand que ça, nous, papy, on a des ailes. Économie, ça veut dire radinerie. Un sou est un sou. Mais nous on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner comme ça gratos, ça vous faire boule. L'économie, c'est la science de l'avarice. Elle attendra l'économie qu'on lui trouve un putain de sens.
Didelum.
De retour chez Radio Radier, on était en train de parler du modèle allemand et du modèle britannique en termes de droit chômage, et du coup, je reviens avec une petite anecdote sur l'Allemagne. Voilà, donc c'est un homme qui a été vu en train de faire la manche par un employé de son job center, donc les agences Pôle emploi du futur. Et là, bim, l'employé du job center, il en a parlé à son employeur, et du coup, le job center a réduit de 300 euros les allocs du monsieur. En raison d'un calcul, c'est pas con. Le mec, il doit gagner 10 euros par jour en mendiant. Alors, du coup, voilà, comme il va se barrer dans les Bahamas avec ses sous, et, on lui demande un petit peu de pas trop en abuser et de donner la différence. Et la blague, en fait, c'est ça. C'est que le mec, en plus, il a rencontré une avocate dans les rues où il mendiait. Donc ouais, ça se passe à Dortmund, j'ai oublié de le dire. Et en gros, l'idée, c'est que cette avocate a fait appel avec lui et lui a aidé à renégocier à hauteur de 6 euros par jour et 20 jours travaillés par mois le montant qui était déduit de ses allocs.
C'est quoi ce travail? Comment on appelle ça?
Alors, c'est collecteur de fonds privés.
De dons privés.
De dons privés.
Ça, c'est donc du coup, maintenant, il y a un terme institutionnel pour dire manchet, c'est assez cool. Ça
fait, mécénat de rue.
Ça fait moins crade, il faut l'avouer. Et donc, il y a une vanne dans la vanne, c'est un peu l'idée, quoi, parce que l'enfant Kinder, il devait être allemand, Kinder chômeur, avec du boulot à l'intérieur. Enfin bon, on peut se faire plein de petites blagues à l'intérieur. Et du coup, je vais citer l'article, parce qu'à un moment, on ne peut pas tout résumer sans déconner. Donc, j'ouvre les guillemets. Dans une nouvelle lettre, le job center a exigé qu'il tienne un journal de son activité, donc le monsieur, avec le décompte exact de ses revenus, ainsi qu'une projection pour les 12 prochains mois. Il a également été invité à se rendre au bureau du commerce afin de déterminer si son activité relevait du travail indépendant.
Et voilà.
Les guillemets. Voilà.
Pop, pop.
L'Allemagne.
Et ça, c'est le contrôle à la sauce allemande. Et du coup, on va pouvoir voir ça un petit peu plus en détail parce que c'est dû à tout un programme de loi qui s'appelle Hartz. Et là, on en est au l'épisode 4, Hartz IV. Donc, c'est Denis, voilà, qui doit nous développer un peu tout ça.
Ouais, en fait, on a pioché un peu dans un article qui s'appelle... Attends, j'ai oublié, je l'ai regardé il y a 2 minutes. ça s'appelle « Le cauchemar du miracle allemand », non ? C'est quoi ?
Ça marche bien, comme c'est... L'enfer du miracle allemand.
L'enfer du miracle allemand, et c'est un article du Monde Diplo. Ouais, c'est ça, on est là-dedans. Donc, c'est un article du Monde Diplo écrit par Olivier Siran. Et en fait, c'est intéressant de voir un peu l'historique de toute cette, de tout ce discours et des pratiques sur le contrôle des chômeurs. Donc l'Allemagne, ils sont assez en avance pour le coup sur la France, même si avec Macron, on avance un petit peu très très vite dans cette direction-là. Donc en fait, c'est une thématique en Allemagne qui est plus radicale et plus ancienne qu'en France. Elle remonte notamment aux lois Schröder, qui était je crois le ministre des Finances, ou en tout cas c'est lui qui a impulsé. Il n'y a pas de premier ministre en Allemagne, je crois que c'est un chancelier. Il était chancelier. Bon, j'avoue, j'ai pas l'info là, mais du coup, il y a lui et Peter Hart, qui est la personne qui a donné son nom à toutes ces réformes sur le contrôle des chômeurs, qui remonte en fait à 99 avec la, c'est la coalition social-démocrate en fait qui a mis en place tout un panel de lois en fait visant à réduire les prestations sociales qui sont dues aux chômeurs, aux précaires, aux RSIS, mais surtout, avant tout, en fait, de mettre au travail des chômeurs. Donc, en fait, comment est-ce que ça s'est... un petit peu dans le désordre, hein, si je reprends l'article, comment est-ce que ça prend forme. En fait, aujourd'hui, en 2017, pour une personne seule, les prestations sociales, elles sont de 409 euros. Mais outre, en fait, la baisse des montants reçus par les personnes qui n'ont pas de revenus à côté... Il y a surtout plein de mesures de contrôle. Et en fait, ce qui est assez ouf et ce qu'on a du mal à croire en France, et il faut tout faire pour que ça n'arrive pas, c'est qu'en fait, le Job Center, en fait, qui est voilà, le nom qu'on donne au Pôle emploi en Allemagne, ils ont le droit de regard sur les comptes en banque des personnes qui... Voilà, des gens qui reçoivent des aides sociales.
Viens voir mon découvert.
C'est ça, viens voir mon découvert. À leurs achats, à leurs déplacements, à leur vie familiale et aussi à leur sexualité. C'est-à-dire qu'on peut te demander avec qui tu as eu des relations sexuelles dans l'année qui a précédé. Et du coup, on en parlait. C'est pourquoi ? C'est pour savoir avec qui tu vas avoir un enfant ou quoi. Enfin bon, je sais pas. C'est complètement absurde et complètement intrusif. Donc du coup, en Allemagne, le Job Center a le droit de demander ça aux prestataires du RSA allemand. Donc en fait, c'est quelque chose qui est assez européen, c'est-à-dire que l'idée était partie de Schröder et Blair. Bon, l'idée est sûrement beaucoup plus ancienne, mais elle a été impulsée par Schröder et Blair qui, je cite, « voulaient transformer le filet de sécurité des acquis sociaux en un tremplin vers la responsabilité individuelle ». Bien sûr, mais que de belles choses dans cette loi Hartz. Voilà, et sachant que notre cher Peter Hart, qui est à l'origine de ces réformes, était, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ancien directeur du personnel chez Volkswagen, donc big up les DRH, on vous aime, on vous fait des bisous, et qui a été condamné à 2 ans de prison avec sursis plus 500 000 euros d'amende, parce qu'en fait, pour acheter la paix sociale au moment d'un plan de licenciement, il a lâché un max de pots de vin à son comité d'entreprise. Voilà, donc ça c'est pour le perso.
Et faire recours à des travailleuses du sexe et différents petits agrégats comme ça pour l'apéro et tout. Enfin voilà, quoi, des trucs quand même bien illégaux qui relèvent.
Et en fait, ces formes de contrôle, bon, on en parlait tout à l'heure en lisant l'article avec Roméo. En fait, il y a plusieurs exemples qui sont donnés de ce que ça peut donner, en fait, ce contrôle. Et c'est un contrôle qui est appliqué à toutes les personnes, pas seulement les bénéficiaires en fait, des prestations, mais aussi voilà, leurs enfants, leurs trucs.
Ouais, voilà, parce qu'à un moment, c'était intéressant de mettre un visage sur les personnes qui abusent de ces aides et ces personnes que le contrôle va remettre dans le droit chemin. Donc, dans l'article, en gros, il y a une mère isolée qui est éducatrice. Alors, elle reçoit un courrier qui lui demande, sous peine de sanction, de postuler pour un emploi d'agente commerciale dans un sex shop, ce qui correspond pas trop à sa filière professionnelle. On a aussi une senior qui vient au job center parce qu'en fait sa retraite est trop basse, qui a un boulot à côté en plus du coup de femme de ménage, et puis qui continue en fait à être surveillée parce qu'il faut qu'elle aussi elle prouve qu'elle mérite de bouffer à la fin du mois, c'est pas tout d'être retraitée. Et sinon les enfants, voilà, un peu plus surprenant, voilà, ça a entre 15 et 18 ans, mais les enfants aussi, ils peuvent rapporter des allocs et du coup des thunes au budget de la famille, donc eux aussi doivent découvrir le joie, on va dire, de la responsabilité dont on parlait avant, et ils ne peuvent donc par conséquent être convoqués au job center, ils peuvent se faire conseiller de s'orienter vers tel ou tel secteur sous tension, et on peut donc se voir couper les vivres du job center parce que ces gamins ont fait l'école buissonnière et le job center buissonnier. Puis voilà, après, comme on le disait un petit peu plus tôt, il y a cette histoire que le Job Center peut développer des aides supplémentaires, ce qui lui donne un droit de regard supplémentaire, et notamment cette personne enceinte qui se retrouve à devoir dévoiler, sous peine de sanction, l'identité, les dates de naissance de ses partenaires sexuels. Rien que ça.
Ouais, ça craint de ouf, ouais.
Ouais, parce qu'à un moment, on pourrait se dire que, t'imagines, tu sais, on te conseille d'avoir une relation qui, lui, aura une profession, qui sera un job en tension, donc il aura de quoi t'offrir une situation dans les 4-5 années en fonction de la conjoncture économique.
C'est ce que me dit ma mère.
Voilà. Elle travaille où?
Elle est fonctionnaire.
Ah bah voilà.
Elle a bientôt plus de boulot, non?
Elle attend que ça.
Mais ouais, et du coup, bah, je sais pas si t'avais fini sur les anecdotes, mais oui. En gros, ce qu'il y a de pire dans le contrôle, bah, c'est déjà ouais, le contrôle qu'on subit super intrusif, sur, que ce soit contrôle chômeur, CAF. Mais c'est surtout qu'en fait, l'objectif, c'est de, bah, en fait, de transformer les chômeurs en travailleurs précaires. En fait, bon, c'est pas seulement les chômeurs qu'on transforme en travailleurs précaires, c'est les travailleurs, en fait, tous les travailleurs, tout le monde, en fait. Dès qu'on peut transformer quelque chose en travailleurs précaires, on va le faire. Et donc, ça me fait penser, là, j'ai pas trop regardé les chiffres, mais quoi, les chiffres du chômage, ils ont baissé en France ces derniers temps. Mais en fait, comment est-ce que l'emploi précaire, en fait, il a explosé? Et en fait, là, dans l'article, pour revenir à l'Allemagne, et pour faire le parallèle qui, malheureusement... Et assez criant, quoi, c'est que en fait en Allemagne, l'intérim par exemple a explosé. Donc en 2000, tu avais 300 000 personnes qui travaillaient en intérim. En 2016, tu en as 1 million. Les travailleurs pauvres, donc c'est-à-dire qui gagnent moins de 979 euros par mois. En 2000, il était de 18% des travailleurs, c'est passé à 22% en 2016. Et ce que dit l'article aussi, c'est qu'on a beaucoup entendu parler de l'instauration d'un salaire minimum en Allemagne. Je crois que c'était l'an dernier ou l'année d'avant. Ça n'a pas changé grand-chose à la donne, en fait. Parce que j'imagine qu'il y a des contrats précaires, dans le sens mi-temps, subi ou quoi, qui font que bah, en fait, tu te retrouves avec peu d'argent à la fin du mois.
Comme ici, avec par exemple le service civique. Enfin, t'es payé au-dessous du SMIC, en fait. Quoi.
Ouais.
Il y a plein de façons de contourner le salaire minimum. Et
l'apprentissage aussi. Enfin, bon, du coup, à voir. Mais bon, du coup, je connais quelqu'un qui fait un apprentissage en même temps. Il m'a montré sa fiche de paye, 4 euros de l'heure. Il fait 38 heures par semaine. Il gagne 600 balles.
Et voilà.
Big up l'exploitation.
Ouais, non, puis tout ce qui retouche du travail dans les prisons aussi, il y a des fiches de salaire qui tournaient sur les réseaux qui étaient assez ouf. Et comme on parlait à l'international, on peut rappeler que nos cousins britanniques ont quand même instauré le contrat à 0 heure, ce qui sous-entend que tu veux signer un contrat avec ton employeur et que c'est lui qui en fonction des besoins qu'il a et n'a aucune obligation, il t'octroie des heures. Donc t'es lié à une entreprise, tu peux pas chercher du boulot à ce moment-là. S'il n'y a pas de boulot ce mois-ci, tu as 0 heure. Zéro livre, du coup. Et voilà, c'est un peu le futur qui nous attend en termes de contrat aussi.
Ou pas, parce qu'on va mener un mouvement social victorieux.
Nos turfus.
Ouais, et ouais, du coup, juste pour finir avec ça, en fait, en 2016, il y a eu des sanctions, parce que voilà, bah, contrôle veut dire sanctions. Près d'un million de sanctions prononcées, et ça a débouché sur des ponctions de plus de 100 euros, en fait, en moins sur les aides sociales attribuées aux gens. Il y a eu, bon désolé pour les chiffres, je ne suis pas forcément fan, mais il y a eu, mais je les prends parce qu'ils étaient dans l'article, 121 000 plaintes, et en fait le problème c'est que les gens ils se sont, enfin c'est compliqué quand tu es précaire de te défendre, bon c'est possible tu vois, mais bon du coup ils n'avaient pas forcément tous les outils, il y a beaucoup de plaintes qui ont été rejetées.
Vas-y faire un procès au RSA.
Bah, c'est ça, ouais. Et du coup, juste pour finir, à savoir, en Allemagne, en fait, il y a eu des mouvements sociaux, des mouvements de chômeurs dès 2003-2004 qui ont été lancés par en fait, des collectifs au sein de syndicats, mais les centrales syndicales n'ont pas vraiment suivi parce que en Allemagne, comme en France et comme dans beaucoup de pays, ils restent, on va dire, cantonnés à défendre les droits de salariés qui sont dans une forme d'emploi protégée. Et donc, du coup, ils n'ont pas renouvelé, en fait, les appels à ces grèves, à ces mouvements.
Ouais, on peut rajouter qu'en fait, ils ont fait partie de la discussion, de la concertation qu'il y a eu autour des projets ARTS. Donc, à l'époque, ça devait être le 1. Et ben, un peu comme chez nous, c'est des partenaires sociaux ce qu'ils font, qu'à un moment, ils font de l'État compatible et puis qu'ils ne peuvent pas non plus être complètement du côté des travailleurs. Quoi. Ils ont l'air un peu cons. Les gens se mobilisent contre eux, hors sphère syndicale. Et du coup, dans un mouvement dont ils aimeraient bien être à la base, et voilà, le temps de trouver un placement, le mouvement s'est essoufflé, quoi.
Ouais, bah, surtout en Allemagne, c'est quand même le syndicalisme de la social-démocratie. C'est la CFDT totale.
Social-démocratie, des amis pour la vie.
Normal. On pourrait peut-être passer aussi à nous, ce qu'on subit comme contrôle, parce que là on a fait un peu les expertes du contrôle, les chiffres, bon, voilà. Et on pourrait passer un peu à nos vies de chômeuses et chômeurs, RSAistes, travailleuses précaires. Et il y avait Michel qui avait une petite... anecdote ?
Bah ouais, pour mettre un peu en garde sur là en ce moment comment ça se passe en France aussi et dont j'ai été victime, c'est que par exemple, voilà, des petites mises en garde sur par exemple quand on héberge des potes à titre gratuit auprès de la CAF, sachez qu'il y a des trucs un peu chiants et un peu relous. Moi, depuis que j'ai hébergé quelqu'un à titre gratuit chez moi, il y a la CAF qui s'est mise à bloquer mon RSA parce que soi-disant, légalement, ils peuvent considérer que cette personne est dans mon foyer, alors qu'en plus, il y a des articles de loi très précis sur ça veut dire quoi, participer financièrement à un foyer et tout ça. Bon, moi, j'estimais que je n'étais pas dans ce cas-là, mais bref, ils m'ont cassé les bonbons à me demander les déclarations trimestrielles de la personne que j'hébergeais à titre gratuit. Et tant que je ne les donnais pas, ils bloquaient mon RSA. Alors ça, apparemment, soi-disant, c'est légal. C'est-à-dire que 99% du temps, ils font chier personne quand tu héberges quelqu'un à titre gratuit. On l'a tous fait, toutes fait. Bon, moi, ils m'ont fait chier. Ensuite, j'ai appris des trucs un peu chiants aussi, qu'apparemment, quand tu héberges quelqu'un pendant plus de 6 mois, pareil, on peut demander les revenus de la personne tierce. Donc, je ne sais pas si c'est les déclarations trimestrielles ou l'avis d'impôt, mais voilà, on peut continuer à pousser un peu le contrôle et est-ce que ça joue dans tes aides sociales. Aussi, j'ai compris, j'ai cru comprendre que si quelqu'un était chez toi en janvier, à titre gratuit toujours, ces revenus peuvent être considérés dans ta taxe d'habitation au janvier de l'année d'après. Alors pareil, je pense qu'il se base sur, sur son avis d'imposition ou son avis de revenu, quoi. Alors je ne sais pas s'il faut qu'il soit là aussi hébergé à une temps de période ou quoi, mais en tout cas, ce truc du janvier pour l'année d'après, comme pour toi en fait, si tu es dans un logement en janvier, c'est là que se joue la taxe d'habitation de l'année d'après, donc bien relou. J'ai aussi appris, toujours avec cette CAF, en l'occurrence la personne que j'hébergeais à titre gratuit, elle s'est barrée 9 mois à l'étranger, et sa prime d'activité, donc la prime d'activité que tu touches sur tes 3 mois précédents travaillés, il faut que tu sois en France pour les 3 mois suivants, les 3 mois où tu la touches, les 3 mois effectifs, enfin les 3 mois effectifs, voilà, les 3 mois suivants, tes 3 mois précédents, quoi, là où tu touches ta prime d'activité, il faut que tu sois quand même en France. Mmh. Donc moi, comme une grosse conne, quand j'ai dû dire en fait, alors si vous me bloquez mon RSA, je vais devoir dédomicilier cette personne, mais elle était d'accord, blabla, ben il va peut-être perdre sa prime d'activité parce qu'on a dû dire qu'il est à l'étranger. Donc d'une, il fallait qu'il me foute la paix moi, mais qu'en fait derrière lui, il peut se faire récupérer sa prime d'activité parce qu'il n'était pas en France pour les toucher, alors qu'il avait bien travaillé les 3 mois d'avant. Enfin, je veux dire, c'est complètement con. Mmh. Plus évidemment, vous l'avez cité tout à l'heure, le fameux contrôle qu'on peut se taper annuellement avec des demandes de tes factures EDF, de ton avis d'impôt. Je ne sais pas ce que ça prouve pour eux, pour leur contrôle, mais voilà, je me suis tapé ça en prime. Ils me disaient que ça n'avait pas de rapport avec le fait d'héberger quelqu'un à titre gratuit, mais en attendant, c'est tombé tout en même temps et c'était méga relou et ils m'ont... Enfin, j'ai attendu mon RSA pendant 3 mois, quoi.
T'as pas eu aucun revenu pendant 3 mois ?
Bon, moi, c'est un RSA activité. Du coup, j'ai quand même un tout petit salaire de 300 euros par mois. Là là. Autant vous dire les Bahamas pour bientôt. Mais non, c'est un RSA activité. Mais donc, du coup, j'étais pas sans rien. Mais ça aurait pu être le cas, en fait.
Oui, complètement.
Tout à fait. Voilà, donc faites attention, c'est hyper cool d'héberger les potes à titre gratuit, mais faites gaffe, faut fouiller qu'est-ce qu'ils peuvent te faire, parce que apparemment c'est légal de pouvoir te demander les revenus de la personne tierce, c'est méga chiant. Voilà.
Bonne nouvelle. En plus, il y a le contrôle, parce que ça, c'est les contrôles faits par des contrôleurs CAF ou Pôle emploi, un peu ce qu'on a discuté, mais il y a aussi le contrôle quotidien qu'on subit chaque mois, toutes et tous, avec les rendez-vous au Pôle emploi. Ça, c'est quand même... il faut trouver les personnes qui ont trouvé du travail grâce à leur rendez-vous Pôle emploi. Et ça, c'est assez rare, parce qu'au final, le rendez-vous Pôle emploi, ça sert à quoi ? Ça sert à vérifier qu'on a bien mis notre CV en ligne, qu'on a bien fait les démarches, qu'on est bien tout au clair sur Internet, mais ça ne sert pas du tout à faire de l'accompagnement. Donc voilà.
Et c'est un peu ça. Plus tu es actif sur ton compte Pôle emploi sur Internet, moins ils te font chier, a priori.
Oui, ça, c'est à savoir.
C'est comme si tu travaillais un peu, quoi.
Ça va dépendre un peu aussi de ta conseillère ou de tes conseillers, en fait. Moi, je sais que j'ai beaucoup essayé de les relancer en utilisant cette technique de « si je vous donne des nouvelles, vous n'allez pas me faire chier ». Et en fait, ils ne répondent pas quand je leur demande des nouvelles, parce que concrètement, je leur demande de m'aider à subventionner une formation. Alors du coup, ça ne marche pas.
Mais quelle idée aussi.
Mais du coup, ils ne me donnent pas de rendez-vous Pôle emploi. J'arrive pas à m'obtenir.
En fait, il faut d'abord aller leur demander pour qu'eux, ils ne demandent pas. Il faut leur courir après.
D'accord. Mais comme tout est dématérialisé, j'ai de la peine des fois à savoir où je dois courir.
Et juste pour petite anecdote, pareil, entre Pôle emploi et le site et tout ça, à mon dernier rendez-vous collectif, on était genre, je sais pas, 20 galériens, galériennes. Il y en a un qui a pété les plombs parce qu'il s'est fait pirater je sais pas combien de fois sa boîte mail à cause du site Pôle emploi. En fait, le site Pôle emploi a l'air d'être hyper piraté. C'est la grosse de mer. Et en plus de ça... il y a tous les gens qui étaient là ont commencé à vachement s'insurger contre les accompagnements de merde de Pôle emploi, donc c'était assez cool. C'est vachement plus sympa les rendez-vous collectifs qui vraiment ne servent à rien, mais où tu as la possibilité de rencontrer des gens qui racontent leurs galères, leur précariat abusif, comment ils se font niquer par le droit du travail, par leur patron, par leur machin. Donc voilà, c'est toujours rigolo de... Enfin, voilà, c'est pas rigolo, parce qu'on a des vies de merde, mais de rencontrer des gens où la meuf de Pôle emploi, la poche, je pense qu'elle avait envie de changer de métier très très vite. On lui a tous mis grave la misère.
Je me demande sincèrement, monsieur Macron, je sais pas comment je vais faire. Là, ce mois-ci, il manque 150 euros pour payer mon loyer. Le mois prochain, je sais pas comment je vais faire. Vous comprenez dans quel horrible... dans quel truc on est. J'ai envie de limite à pleurer, quoi.
C'est normal, il y a une indemnisation, mais il faut s'assurer que chacune et chacun recherche bien... l'emploi qui peut être offert, et que lorsqu'un emploi correspond à ses compétences, il le prend.
Moi, demain, on me propose même un truc tout pourri, mais un truc...
Je crois que c'est normal, il n'y a rien de choquant, c'est ce que font tous les pays qui nous entourent, et je crois qu'il y a un fort consensus autour de ça.
Quand au bout d'un an, que pendant même 2-3 mois après avoir quitté l'école, tu envoies des CV, lettres de motivation pendant un an, même moi, 2 ans, je l'ai fait.
C'est normal.
Quand tu n'as aucune réponse, ni positive, ni négative, bah dans ta tête, tu dis ça sert à rien.
Je crois que c'est normal.
Ça sert à rien que j'aille me lever le matin pour aller déposer des CV en sachant que, au bout de 3-4 mois, quand t'as pas de réponse, tu dis un truc qui va pas, quoi.
Mais les quelques-uns qui abusent des règles, c'est normal qu'ils soient contrôlés. Voilà. C'est normal, c'est normal, c'est normal qu'ils soient contrôlés.
Je crois que c'est normal, c'est normal, c'est normal qu'ils soient contrôlés. C'est normal, c'est normal qu'ils soient contrôlés. C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal.
Peut-être un petit point sur le contrôle des entreprises.
Ouais, c'est intéressant ça, en miroir.
Parce qu'on parle que de nous, mais...
Mais oui,
où est-il ce contrôle?
Eh bien, parlons-en comme d'un plaidoyer pour le contrôle. Donc, le Monde Diplo, encore une fois, a sorti un article, et là, c'est ce mois-ci, donc qui s'appelle « Le fléau de l'assistanat ». Ça fait un peu flipper, un peu Tolkien, j'aime bien.
Un peu Wauquiez.
C'est ça. On l'aime bien aussi. Ah bon ? Du coup, l'article rappelle, donc là j'ai cité, « Au fil des décennies, les pouvoirs publics ont taillé un environnement fiscal et réglementaire sur mesure pour le patronat sans aucune contrepartie. » Donc ça, c'est l'idée de base. On va partir du coup sur l'exemple qui nous est proposé, à savoir la création du CICE, Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, ouais, entré en vigueur en 2013.
On s'en rappelle.
Donc l'idée, c'est qu'on crée ce crédit pour que lui, il amène de l'emploi. Ce crédit, il coûte des thunes aux contribuables, à savoir 6,5 milliards d'euros en 2014, en sachant qu'aujourd'hui, on en est à 16 milliards à peu près. Mmh. Et donc, voilà ce que dit le journaliste. Les carottes ont été livrées, pas les emplois. Alors, au lieu d'avoir 1 million d'emplois, comme c'était promis par le patronat, on en est à 3 000, voire 100 000 emplois. Bon, autrement dit, on n'en sait que dalle. Et ça, c'est quand même le comité de suivi du CICE qui le dit.
Les 910 emplois de l'usine Ford de Blanquefort pourraient disparaître. Le constructeur américain annonce qu'il cesse d'investir sur le site. Il avait bénéficié d'aides publiques en 2013 et jusqu'à aujourd'hui pour maintenir l'emploi.
Donc, du coup, on peut se dire que l'État-providence, ça marche pas mal pour les entreprises, mais que le fric, ben, une fois qu'il est passé par les entreprises, ça part pas trop dans les emplois. Et il y a 2-3 explications à ça, et notamment l'idée que ben, y a des cadeaux fiscaux qui sont faits, et que l'impôt sur les entreprises en France, enfin sur les sociétés du coup, il est facilement contournable. Si au départ, il prévoit effectivement de ponctionner, je crois que c'est à hauteur de 33 ou 25% des sous, ben en fait, il y a plein de façons d'y échapper. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir découvrir que, par miracle comptable, on peut se retrouver ben, à payer, nous, contribuables, les frais de justice du procès de BNP Paribas aux USA en 2014. Donc un procès qu'ils ont perdu quand même. Ou des événements promotionnels, comme celui du groupe LVMH en 2017. Voilà, c'est-à-dire que quand LVMH se paye un petit traiteur dans la salle des États du Louvre, voilà, on va pas savoir si le buffet il était vegan ou pas, mais nous on a payé un tiers de cette facture-là. Voilà, donc comme on le dit, un tiers de cette facture-là, plus un tiers de cette facture-là, tout ça, ça nous amène à un certain coût global. Donc déjà, ça nous permet de comprendre que, ben, vous voyez, quand on contrôle pas les personnes, elles font de la merde. Hein. Alors du coup, un petit message aux précaires. Et du coup, si on nous contrôle pas, ben, comment on va faire pour compenser les revenus des dividendes des actionnaires? Ouais, parce qu'en 2016, c'est 57% des bénéfices des sociétés. Ça fait 45,8 milliards d'euros qui ont été distribués. Et là encore, je vais citer l'article, sans effet notable sur l'emploi et l'investissement. 101 milliards, c'est la facture globale estimée des allègements fiscaux et parafiscaux entre 2014 et 2017. 101 milliards, le coût de l'assistanat des entreprises. Donc voilà, pour conclure, l'idée c'était de rappeler que, un, l'assistanat, c'est pas un privilège de pauvres. Qu'ensuite, peut-être, on n'est pas sûr que la richesse créée par cette politique d'assistanat entrepreneuriale, elle pourrait être mieux répartie. Et trois, nous reste cette fameuse question, les riches sont-elles incontrôlables?
Et puisque l'assistanat n'est pas un privilège de pauvres, eh bien la spéculation non plus, je vous invite. Oui, on peut commencer. C'est parti, nous entrons dans la petite chronique placement en bourse. Chers chômeurs précaires, RSAistes, bonjour. La fin du mois approche, il vous reste encore quelques euros dans votre porte-monnaie. Surtout, ne les dépensez pas, investissez-les. 10 euros d'économiser sur votre RSA peuvent facilement se transformer dans des centaines d'euros grâce au miracle de la spéculation et de la soumission aux lois du marché. Alors, nous vous proposons dans un premier temps l'investissement dans le groupe Solocal, qui sont propriétaires de Page Jaune. L'entreprise se porte très bien. En 2017, les bénéfices nets du groupe s'élèvent à 336 millions d'euros, soit une augmentation de 500% par rapport à 2016. Alors, comment faire autant de profits? Eh bien, le groupe va supprimer plus de 1000 postes sur 4500 postes d'ici 2019. Et pour info, l'agence de Toulouse fermerait entre juin et décembre 2019, menaçant près de 200 emplois, donc plus précisément 186 postes. Les salariés l'ont appris à la mi-février dans la presse, donc ils étaient bien vénères. Ils se sont réunis, ils ont fait une assemblée et donc... voilà, donc ça, l'info, elle est dans la dépêche. Et à souvenir, je crois que leur local, il est à côté de Balma. Voilà. Ensuite vient l'assurance maladie avec la suppression de 3600 postes dans l'administration sur 6 ans. C'est une déclaration qui a été faite en janvier, je crois, par la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc là, la source, c'est Les Échos. Vous ne pouvez peut-être pas investir dans l'assurance maladie, mais en tout cas, soyez informés qu'il ne faudra pas tomber malade dans les prochains mois. Et enfin, nous vous encourageons vivement à investir dans Carrefour, qui s'est fixé un objectif de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le commerce en ligne et une part de marché de 20% dans le commerce en France d'ici à 2022. Carrefour veut aussi faire quadrupler son chiffre d'affaires dans le bio pour atteindre 5 milliards de chiffre d'affaires en 2022. C'est toujours le numéro 2 mondial de la grande distribution. Mais pour cela, Carrefour a annoncé vouloir baisser les coûts. Donc j'ai pas noté de combien, mais je crois de 2 milliards. Voilà, on n'est plus dans les 200-300-400 euros dont on parle sur nos budgets. Et ça veut dire quoi? Ça va vouloir dire licencier à tour de bras et notamment. C'est quoi le terme? C'est pas le QG, c'est la centrale, là. C'est le centre là, de Carrefour.
La commande en tout?
Quelque chose comme le un truc comme ça. Et en fait, du coup, mettre des salariés sur le carreau, il y a déjà une annonce sur la suppression de 2400 postes à son siège. Voilà, c'était ça le terme que je recherchais.
plus... Ah, pardon.
Oui, désolé. Oui. Et plus la fermeture de presque 300 magasins India, qui est une filiale de Carrefour, et de proposer un plan, attention, de sauvegarde de l'emploi, hein, quel joli nom pour un plan de licenciement. Et en gros, il y a 2100 salariés qui sont menacés et ils disent on va les replacer, je sais pas où, je sais pas comment, de toute façon ces engagements-là, ils valent rien. Je crois. Hein.
Il suffit de faire des pins, hein, en général.
Voilà, exactement.
Touche pas à mon poste.
Et voilà, donc vous savez où investir votre fin de RSA. Et la conclusion, c'est crève les DRH qui nous prennent tous pour des chiffres sur un bilan comptable, crève Carrefour et vive la Chouan.
Ouais. On proposait la création d'un Schlag 40 pour ceux que ça brancherait, histoire qu'on puisse concurrencer le CAC 40 en étant tout dépenaillé que nous sommes.
On peut déjà commencer à annoncer les prochains rendez-vous, les luttes à venir.
Oui, donc pour les prochains rendez-vous, le jeudi 8 mars, ce sera notre prochaine AG, donc celle de l'Assemblée des chômeuses, chômeurs et précaires. Ce sera le 8 mars à 17h au 1 rue Michel Delpech. Le 15 mars, il y aura une journée de mobilisation des EHPAD. Le 22 mars, une manif de la fonction publique et du rail. Et le 5 avril, c'est la journée de mobilisation des précaires de l'éducation nationale, donc les AVS, les AED et les profs contractuels. Et si vous voulez suivre nos infos, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook Assemblée des chômeuses, chômeurs et précaires, sur IATA et sur Démosphère.
Ouais. Ça va être trop bien.
Et l'émission, je crois, est en train de toucher à sa fin. C'est très triste, mais c'est comme ça.
On est un peu émus.
Ciao tout le monde, au mois prochain.
Au revoir.
Bisous.
Salut.
Tchou.
Et n'oubliez pas de vous actualiser.
Lol. C'est quand qu'on crée LOL emploi ?
LOL emploi.
Pôle emploi, la réalité virtuelle pour un emploi réel. Pôle emploi enrichit son offre de modules 3D, véritable mise en situation en conditions réelles. Entraînez-vous aux entretiens d'embauche comme si vous y étiez. Projetez-vous dans un univers professionnel et testez vos aptitudes sur un métier. Pôle emploi, des outils virtuels pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi.
C'est normal ?
Et dans cette émission, nous avons eu le plaisir d'écouter Chômeur branleur de Les Vulves Assassines, D'émission de Les Villards et Papyr Bitteschnell de Ultrazouk.